je le tranquillisais, et après avoir compulsé l'annuaire du téléphone, je demandai la communication avec l'agence de renseignement Barnett. Monsieur Jim Barnett me répondit lui-même. Sans lui donner la moindre explication, j'insistai pour qu'il vînt sans retard. Il me promit sa visite immédiate. Dès lors, ce fut l'attente, et d'un côté et de l'autre, une agitation que nous ne pouvions réprimer. « C'est un de mes amis qui m'a recommandé ce Barnett, » disais-je avec un rire nerveux. « Un type bizarre, sanglé dans une vieille redingote, coiffé d'une perruque, mais fort habile. Seulement, il faut se défier, paraît-il, car il se paie lui-même sur le client des services qu'il rend. » J'essayais de plaisanter. Maxime demeurait immobile et sombre. Et soudain, la sonnerie du vestibule retentit. Ma femme de chambre frappa presque aussitôt. Toute fébrile, j'ouvris moi-même la porte en disant « Entrez, monsieur Barnett, vous êtes le bienvenu. » Oh, je fus confondu de voir que l'homme qui entrait n'avait aucun rapport avec celui que j'attendais. Il était habillé avec une élégance discrète. Il était jeune, d'aspect sympathique et très à son aise, comme quelqu'un qu'aucune situation ne saurait prendre au dépourvu. Il me regarda un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu, d'une façon qui montrait que je ne lui déplaisais pas. Puis, l'examen terminé, il s'inclina et me dit « Monsieur Barnett, fort occupé, m'a proposé l'agréable mission de le remplacer, si toutefois ce changement ne vous importune pas. Me permettez-vous de me présenter ? Baron Denneris, explorateur, et, quand l'occasion s'en présente, détective amateur. Mon ami Barnett me reconnaît certaines qualités d'intuition et de clairvoyance que je me divertis à cultiver. » Cela fut dit avec bonne grâce et avec un sourire si engageant qu'il m'eût été impossible de refuser son assistance. Ce n'était pas un détective qui me proposait ses services, mais un homme du monde qui se mettait à ma disposition. Et cette impression fut si forte en moi qu'ayant allumé machinalement une cigarette, selon mon habitude, je commis l'acte incroyable de lui en offrir une, en disant « Vous fumez, monsieur ?» Ainsi, une minute après l'arrivée de cet inconnu, nous étions l'un en face de l'autre, la cigarette aux lèvres. La scène s'était transformée au point que ma fièvre tombait et que tout semblait s'apaiser dans le salon. Dervinol seul gardait un air renfrogné. Je le présentai aussitôt. « Monsieur Maxime Dervinol !» Le baron Denneris se salua, mais il n'y eut pas un détail dans son attitude qui put faire croire que ce nom de Dervinol évoquât en lui le moindre souvenir. Cependant, après un certain temps, comme s'il n'eût pas voulu que la liaison de ses idées fût trop évidente, il me posa cette question. « J'imagine, madame, que quelque chose a disparu de chez vous. » Maxime se contint. Je répondis négligemment. « Oui, en effet, mais cela n'a aucune importance. » « Aucune ? Mais tout de même, c'est un petit problème à résoudre. Et monsieur et vous avez dû y renoncer. Cette chose vient de disparaître ? » ?»«
Oui. » »«
Tant mieux. Le problème sera plus facile. »
« Qu'est-ce donc ? » ?»«
Une bague. » Une émeraude que j'avais mise sur ce guéridon avec mes autres bagues et ce sac à main qui s'y trouve. Pourquoi avez-vous quitté vos bagues ?
Pour jouer du piano.
Et pendant que vous jouiez, monsieur était près de vous ?
Debout, derrière moi.
Donc, entre vous et le guéridon ?
Oui.
Dès que vous avez constaté la disparition de l'émeraude, vous l'avez cherchée ?
Non.
« Monsieur Dervinol non plus ?»«
Non plus. »«
Personne n'est entré ?»«
Personne. »«
C'est Monsieur Dervinol qui s'est opposé aux recherches ?»« Maxime déclara d'un ton agacé.
« C'est moi !»
Le baron d'Henris se mit à marcher de long en large. Il marchait à petits pas élastiques, ce qui donnait à son allure une souplesse infinie. S'arrêtant devant moi, il me dit
« Ayez l'obligeance de me montrer vos autres bagues. »
Je lui tendis les deux mains. Il les examina et aussitôt il eut un léger rire. Il semblait s'amuser et poursuivre plutôt qu'une enquête un jeu qui le divertissait.
La bague disparue avait évidemment une grande valeur, n'est-ce pas ?
Oui.
Pouvez-vous préciser ?
Mon bijoutier l'estimait à 80 000 francs.
80 000 ? Parfait.
Il était enchanté. Ayant retourné ma main gauche, il en observa la paume longtemps, comme s'il se fût appliqué à en déchiffrer les lignes. Maxime fronçait les sourcils. Il était visible que le personnage l'horripilait. Quant à moi, j'aurais voulu me dégager et interrompre un geste choquant. Mais la pression, si douce cependant, ne me permettait pas la moindre résistance. Et cet homme eut embrassé ma main que je ne sais si j'aurais eu la force de le repousser, tellement je subissais l'influence de son autorité et de sa manière d'agir. Au fond, j'étais persuadé qu'il avait déjà résolu l'énigme, pour le moins au point de vue du fait lui-même. Il ne me posa plus aucune question directe. Mais je ne doutais pas que les deux ou trois anecdotes qu'il me raconta sur des aventures analogues à celles qui m'arrivaient ne lui servissent à élucider notre affaire. Il jetait de temps à autre un coup d'œil rapide sur Maxime ou sur moi, épiant, me semblait-il, la réaction produite par son récit. Je protestais en moi-même, vainement. Je sentais qu'il découvrait ainsi, peu à peu, sans nous interroger, l'état de nos relations, l'amour de Maxime et mes propres sentiments. J'avais beau me contracter, et Maxime aussi, sans doute, il dépliait, pour ainsi dire, tous ces secrets qui s'entassent en chacun de nous, comme les feuillets d'une lettre. Oh, c'était exaspérant. À la fin, Maxime s'emporta.
« Je ne vois vraiment pas en quoi tout cela concerne... »«
En quoi cela concerne l'affaire qui nous réunit ?»
Mais nous y sommes en plein. L'énigme en elle-même ne signifie pas grand-chose. Mais la solution que je vous propose ne peut être la solution juste que si elle s'appuie sur vos états d'âme au moment du petit incident qui s'est produit.
Maxime eut peine à se contenir.
Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas fait une seule recherche. Vous n'avez dérangé aucun meuble, rien observé, rien regardé même. « Ce n'est pas par une conférence inutile que vous nous rendrez le bijou perdu. »«
Vous êtes de ceux, monsieur, qui se laissent impressionner par le cérémonial coutumier des enquêtes et qui veulent tirer la vérité des faits matériels, alors que presque toujours, monsieur, elles se cachent dans des régions tout à fait différentes. Le problème qui nous occupe aujourd'hui n'est pas d'ordre technique ou policier, mais d'ordre psychologique, uniquement. » Mes preuves ne sont pas dans le succès d'investigations fastidieuses, mais dans la constatation irréfutable de ces phénomènes psychiques tout à fait spéciaux qui provoquent en nous, et principalement chez les natures impressionnables et impulsives, des actes qui échappent au contrôle de notre conscience.
C'est-à-dire que j'aurais commis l'un de ces actes ?
Non, monsieur, il ne s'agit pas de vous.
De qui alors ?
De madame.
De moi ?
De vous, madame, qui êtes précisément, comme toutes les femmes, de ces natures impressionnables et impulsives auxquelles je fais allusion. Et c'est à votre propos que je me permets de rappeler que nous ne conservons pas toujours la maîtrise absolue et l'unité totale de notre personnalité. Elle se dédouble, non seulement au grand moment tragique où notre destin se joue, mais au moment les plus simples et les plus insignifiants de l'existence quotidienne. Et tandis que nous continuons à vivre, à causer et à penser, notre inconscient prend la direction de nos instincts et nous fait agir dans l'ombre, à l'insu de nous-mêmes, et souvent d'une manière anormale, absurde et inintelligente.
Bien qu'il s'exprimât gaiement et sans la moindre pédanterie, je commençai à m'impatienter et je lui dis « Concluez, je vous prie, monsieur. »
« Soit. Mais, excusez-moi, madame, si je suis obligé de le faire d'une façon qui vous semblera indiscrète et sans m'arrêter à de puériles considérations de politesse et de réserve mondaine. »